Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il va falloir qu'il bosse. Je suis déjà content là. Philippe, il a déjà convoqué demain matin à 8h. Et encore, il est gentil, parce que moi, ça serait demain matin à 6h, et c'est honteux ce que j'ai aujourd'hui. Je me réserve parce que je vais exploser.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h05, Lyon dans quelques minutes au programme, l'Italie, l'Inter est champion depuis quelques minutes en battant Milan AC 2-1 ce soir, Yoann Crochet sera avec nous, l'OM également en débat dans quelques minutes, mais d'abord concluons sur Lille, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le LOSC ensemble parce qu'il y a quand même une dynamique. Alors bon, Aston Villa c'est mal terminé, mais enfin bon, je pense qu'il n'y avait rien d'infamant dans cette... Dans cette double confrontation,
c'est hein. Qu'Aston Villa regagné derrière en première ligue, ils sont toujours quatrième. Non, ils ont battu. Enfin, ils ont fait une double confrontation.
Et sur ce match-là, je crois qu'ils doivent passer hein, vraiment.
Franchement, oui. Sur la fin de saison de Lille. Tu l'as rappelé aussi sur leur début de match, effectivement,
moi, ils m'ont bluffé.
C'est vrai que sorti du match contre Aston Villa, on avait des interrogations.
Mais surtout
sur
quand
l'état
tu compares
de
avec l'état de forme de Marseille, tu te dis mais en fait qu'est-ce qui s'est Quelle est la différence de préparation de...
Il n'y a pas que l'état de forme, il y a la qualité des joueurs aussi.
Ouais.
L'OM, ils font tout à l'arrache, alors c'est très bien. Hein,
alors que là, t'as un Cabella qui revient comme une balle, par exemple.
Non seulement il y a la qualité d'effectif, il y a la richesse de l'effectif aussi. Marseille, quand ils changent avec qui ? Ils ont fait jouer des enfants à la fin du match contre Benfica.
C'est vrai, c'est passé quand même bon.
Ah ouais ? Ça passe à l'arrache, c'est génial, ça fait plaisir, c'est un gros moment pour le club, mais
Puis il faut revenir aussi à un moment donné sur la, puisque là on fait le bilan, enfin on fait une sorte de petit bilan, et forcément tu dois remonter vers les équipes dirigeantes et vers les recrutements, puisque quand tu parles de Marseille, tu parles du recrutement qui ne va pas, tu parles de la cellule médicale qui ne va pas, là tu touches à des trucs vraiment organisationnels forts. Quand tu parles de Lille, franchement il faut vraiment revenir sur le recrutement, sur le gardien de but, par exemple. Tu prends Paulo Lopez, qui a été le héros avec l'OM, mais qui se trouve derrière et qui, quand même, fait une saison avec des hauts et des bas. Côté Lille, t'as Lucas Chevalier. T'as un jeune gardien français qui va sans doute être un des trois gardiens de l'équipe de France dans très peu de temps, qui est le portier de Lille. Ça c'est un choix et un avènement fort. Quand tu as la composition de l'équipe, de cette équipe-là, sur 2-3 ans, tu as, alors je ne parle même pas de Benjamin André, qui a une des valeurs très sûres, évidemment, on l'a encore vu contre Aston Villa.
Vertébrale, Chevalier, Yoro, André.
Tu parles de Yoro, par exemple. Yoro, il est à Lille. David, il est arrivé à Lille. Donc, c'est quand même aussi là l'occasion de souligner que si à la fin d'une saison comme celle-là, à la fois physiquement et sur la qualité des joueurs et de l'entraîneur, tu t'es trompé ni sur l'entraîneur, ni sur les jeunes prospects, ni sur les valeurs sûres, genre André. Tu vois, bravo Létang et son équipe, parce que là, quand même, c'est ça la réalité. La réalité de l'OM, quelle que soit la saison qui est totalement dingue, et on l'espère qu'il se finira bien, notamment en Coupe d'Europe, c'est quand même, comme le dit Daniel, à l'arrache. C'est-à-dire que tout se fait de manière totalement hallucinante. On ne sait pas s'ils vont aller au bout des matchs. Ils crampent à tous les matchs.
Même hier, ils terminent à l'arrache. Contre Benfica, c'est à l'arrache. Enfin, là, ce qui est en train de se passer avec la double confrontation Atalanta, peut-être la finale derrière, c'est au-delà d'inespéré, c'est du miracle. Les supporters de l'OM avant le double match contre Benfica, ils étaient en état de déprime. Là, ils sont en état de surexcitation parce qu'il y a peut-être un truc complètement fou, totalement inattendu. Mais quand ils font le déplacement à Lisbonne et que tu sais, il y a, on ne sait pas s'ils ont le droit d'y aller et qu'ils se retrouvent tous là-bas. Mais les messages qu'on reçoit, ce qu'on entend de là-bas, c'est oh, il nous reste que ça. Nous n'avons rien eu cette année. Il nous reste ça, pourvu qu'ils ne nous privent pas de ce match-là. Donc après, ils étaient contents, ils ont pu aller au stade et tout ça. Mais ils étaient en état de déprime. Et là, il y a ce cadeau. Le cadeau de jeudi soir, honnêtement, j'ai encore du mal à comprendre comment il est venu. Il est venu, force mentale, à l'arrache, ils sont allés le chercher. Mais je me demande encore comment Benfica a pu se faire sortir.
Et juste pour revenir sur ces équipes et ces structures, si tu regardes la façon dont certains coachs enfin, tu regardes la stabilité des coachs dans la Ligue 1 cette année, à la fois pour ceux qui ont changé de coach et pour ceux qui ont vu leur coach à un moment donné remis en cause. Uther, il a été remis en cause fortement, tu sais, on s'est demandé à un moment donné si carrément ça allait aller au bout. L'OM, je te parle pas des changements de coach, il y en a eu trois, enfin, il y a eu trois coachs, deux changements. Lyon, idem, trois coachs de changement. Rennes, changement de coach. Et Ni et Farioli a été un peu dans la même situation que Uther à Monaco. En gros, l'idée éventuelle d'arrêter ou de continuer s'est posée. Ah. Donc, tu t'aperçois que sur la stabilité cette saison, tu as eu PSG, une fois n'est pas coutume. Enfin, si quand même.
Monaco.
Non, Monaco, je te dis, il a été menacé, Uther. Il a été
oui,
fortement.
Enfin, il est resté quand
même. Non, il est resté, mais c'était pour dire entre ceux qui ont été un peu ébranlés et ceux qui ont vraiment été changés, t'as PSG, Lille, Fonseca et Brest. Eric Roy, forcément, qui était stable. Et je mets à part Aiz, quand même, qui lui aussi, de son côté, malgré la saison un peu décente. Mais t'as raison, il y aura un sujet. Il y a un sujet à Lens qui sera intéressant.
Il y a un sujet fin d'histoire.
Bon, pour conclure sur Lille, disons qu'il y a une dynamique en leur faveur là, qui moi me fait dire que je les vois bien finir dans les trois.
Il y a une dynamique et une histoire récente.
Pour les Brestois.
Le travail de Fonseca, de l'étang, Flo a tout dit, qui doit les emmener.
Il y a ça et puis il y a un truc dingue, alors qui marche pour Marseille aussi finalement parce que les résultats sont là. Mais la confiance que tu acquiers quand tu as fait une double confrontation comme celle qu'ils ont faite contre Aston Villa, c'est un truc. Franchement, que tu reviens en Ligue 1, que tu viens d'affronter le quatrième de Première Ligue en le regardant droit dans les yeux, ça te donne quand même une énorme confiance avant d'aborder le sprint final en Ligue 1.
Après, ça n'était que Strasbourg.
Bah oui, c'est vrai.
Ça n'était que 1-0 pour Strasbourg, soit dit.
Et vous avez vu la stat terrible de Emega ?
Non.
Franchement, j'ai honte.
Ah, vas-y.
Emega, il a zéro joué. C'est la première fois, c'est nos amis d'Opta là, qui font les stats ont publié ça. C'est la première fois depuis qu'ils font les stats qu'ils trouvent un joueur qui a joué plus d'une demi-heure dans un match, il était remplaçant au début, hein, mais bon, qui a joué plus d'une demi-heure, qui a touché deux ballons. Je précise, dont un hors-jeu.
Et oui, méga.
Ah, franchement.
Ah, c'est dur.
Mais le pire, c'est que Strasbourg a trois occasions nettes à la fin. Hein. Donc les Lillois, petit bémol quand même, ils ont physiquement à la fin du match, la dernière demi-heure, ils étaient quand même un peu en galère. Parce que,
mais moi, il n'y a que ça qui m'inquiète pour eux mercredi, parce que sinon, ils peuvent aller gagner à Monaco sans problème. C'est leur état de forme qui me pose question.
Bon, et quant à leur calendrier, ils vont à Metz. Bon, vous allez dire Metz en ce moment, avec Mikotadze, ils sont en train de se refaire.
Tu sais, ça c'est un truc, on le dit jamais. Tu te rends compte qu'un mec seul va peut-être sauver une équipe, hein. C'est lui qui leur fait tout. C'est lui qui leur fait tout. La moitié d'un ballon, il t'en fait un but.
Ouais, ce qu'a dit Bologna, en substance.
En dehors de ça, avant son but, ce qui est assez étonnant pour Metz depuis un moment, et on le voyait avant le match contre le Havre, la dynamique même offensive, alors qu'ils étaient inoffensifs, en dehors du fait que c'est Mikotadze qui termine parfois, il y a une occasion avant aussi sans lui, Metz étonnamment se crée plus d'occasions depuis quelques matchs que des équipes comme le Havre qui plongent totalement.
Ah mais d'ailleurs, enfin moi, c'est pour ça que ce soir,
transforme l'équipe.
C'est pour ça que ce soir j'insiste sur les dynamiques, parce qu'en fait quand il reste 3-4 journées, là, c'est là que ça se joue, c'est-à-dire que là, tout à coup tu trouves une petite formule, t'as un mec en forme,
et ça se joue aussi avec le mec qui est en forme et
voilà,
qui.
Change tout.
Oui.
Donc c'est pour ça qu'on est plutôt confiant pour que. Enfin, moi je suis plutôt confiant pour que Lille soit sur le podium. Et effectivement, on peut se dire que Metz, en bas, il y a une raison pour que.
C'est une sorte de dynamique.
Alors que dans le même temps, t'as Nantes, par exemple, avec le pauvre Mostafa Mohamed qui a fait il y a une bonne période. Et là, transparent.
Alors le match.
Alors tu veux dire dans ce cas-là que la pire place pour Brest, ce serait quatrième. Avec leur dynamique.
Parce que
si eux.
Moi je vois ça.
Si eux tombent dans le 3+1.
Avec un barrage où ils seront tête de série.
Alors
de rien.
Là, c'est dans la foulée, ça peut virer, mais à la catastrophe totale.
Avec, en plus, on a appris aujourd'hui qu'il ne pourra avoir que 5000 places, c'est pour la Ligue des Champions.
Oui, je l'ai dit tout à l'heure, ça se trouve, c'est soit moi,
c'est
moi, soit déloc.
Non, mais c'est une déloc.
Oui, mais ça veut dire changer de stade. Ils ne vont pas jouer avec une tribune ouverte sur 4. C'est ça l'histoire. Ils auraient 3 tirs de 3 tribunes fermées.
Ils vont être obligés d'aller au Roazhon Park.
Lille l'avait fait, la déloc au Stade de France.
Je crois qu'ils préféreront aller à Rennes plutôt qu'à Guingamp, non ? Je crois qu'ils s'aiment pas trop avec Guingamp. Historiquement, en Brest, les Guingamp. Oh, ça s'est amélioré.
Le Guingamp, c'est homologué ? Ça vaut Ligue des Champions ?
Guingamp, le stade est plus récent que chez Brest. Hein. Ils ont joué la Coupe d'Europe, Guingamp.
Ligue des Champions, c'est encore. Peut-être autre chose. Hein.
La Coupe d'Europe à Guingamp, ça date d'il y a quelques années, mais ils l'ont joué. C'était l'Europa League. Hein. Je ne sais pas si c'est les mêmes.
C'est dommage parce que le gars qui a son
même
salon. Francis Leblé qui a le salon VIP. Qui donne sur le stade, il aurait pu faire des affaires en Airbnb pour les matchs de Ligue des Champions.
Vous avez vu ça, la vidéo du gars?
Oui, je l'ai vu. C'est énorme.
Il est devant sa télé.
Il va regarder la fin de l'action.
Il va regarder la fin de l'action, puis oh, ça me saoule, je me rassois. Je retourne devant, la télé.
Parce que ça, c'est pas le rêve de tout supporter. Toi, ton appart dans la Méno.
Ouais. Ouais, je sais pas.
Ta chambre à coucher, tu ouvres et tu vois Emega qui tire au-dessus.
Ouais, enfin, un match au stade, c'est quand même mieux que dans ton salon.
Bah, Emega qui t'envoie un ballon directement dans ton lit.
Ah, mais non, mais là, si t'es dans le sens de tir d'Emega,
t'es mal.
Tu fermes les volets. Il peut y avoir des dégâts. Bon, dans un instant, Pierre Sage au programme et on continuera le débat
Ligue 1. On parle de Marseille aussi. T'as un appart pas loin du vélodrome. Tu peux prendre un retourné de Montbagnard dans la tronche. Quand il cadrera pas, je veux dire.
Oh, t'es fou, quoi.
T'es fou, il met des
buts à chaque match.
Depuis que tu l'as noirci, il m'a dit.
Là, on a eu un emballement. J'ai quand même lu ce matin Magique à côté de son prénom. Et j'ai eu la phrase, la sentence est tombée, JPP. La comparaison, elle est.
Jean-Louis Gasset. Oh, c'est Jean-Louis Gasset hier soir.
Oh mon Dieu.
Il a dit, il me rappelle JPP. Peut-être que Gasset avait vu des lacunes techniques chez JPP.
C'est ça. C'est plus dur pour JPP. Non, c'est plus dur pour JPP ce qu'il a dit. Parce que ça veut dire qu'en gros, il faut.
Parce que Papin, c'est idole de Florent Gautreau.
Ah ouais, il fait de JPP. Non, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, parce qu'il a, une particularité, Montbagnard, on l'a dit hier, c'est que. Sur une touche, s'il contrôle pas, s'il fait rien, il peut éventuellement faire un miracle. Alors que JPP, c'était pas du tout ça. Et il savait faire plusieurs touches, il savait s'emmener le ballon, il y avait des tas de choses. Papinade, c'était une touche.
Même si Papin
arrivait à l'OM, et Papin dans le premier match de Coupe du Monde 86 contre le Canada, c'est foirade sur foirade. Hein.
Et
techniquement, t'avais très peur. Hein.
Ouais, tu le voyais, ça faisait très mal.
Tu les as rappelés, au fait, tes amis camerounais là.
Bah, moi, ils nous avaient tout dit avant tout le monde. Hein.
Ah, je sais pas. Moi, je les connais pas, moi.
Non, mais attends, cela dit, et pour être honnête, il y a ce consensus.
Parce qu'après la Papinade, on peut annoncer qu'il y a des Moumbagnades. Désormais. On fait une Moumbagnade.
En tout cas, il y a Moumbagnade dans le vieux.
Rigolez-vous pendant ça. Moquez-vous de lui. Après, c'est moi qui prends.
Mais c'est toi qui m'as piqué mes feuilles, là.
Non, bah, j'étais là-bas.
Bah, tu m'as piqué mes feuilles.
C'est pas.
Mais ah,
c'est
regarde, il y a la cagnotte. T'as la cagnotte.
Mais elles étaient posées là-bas, les feuilles.
Oui, bah, c'est...
Ah, mais je savais pas que c'était à toi, ces feuilles-là.
Il est fantastique, celui-là. C'est pas possible. C'est pas ta soirée.
Hein. Non, mais je savais pas.
Et Daniel, il a piqué le rib de Gilbert.
Non, tu sais ce qu'il a piqué? La feuille avec la cagnotte. Ça leur est arrangé.
C'était
toi.
À toi, ça. Bah, j'ai pas retourné les feuilles.
Bah, moi, t'as pas mis tout ce qu'il doit, là.
Ah, si, mais là, il doit 5 euros, moi, ce soir.
Bah, dis donc.
Oh, la louche est tombée tout à l'heure.
Ah, ouais, tu fais à la louche, ouais, maintenant.
10 ou 15, je vous ai compté. Tu peux mettre 15, hein, parce que.
Ouais. Là, tu dépasses les 70 euros, alors que. Flo, on est à 9.
Normal, je suis là tous les soirs.
9, moi.
10. Ouais.
En proportion de présence par soirée, il est devant.
Ah, oui, c'est vrai.
Je rappelle le principe.
Après, il faudra tout
pondérer. Un gros mot égale 1 euro dans la cagnotte de l'after.
Attends, bidon, c'est pas un gros mot. Hein.
Et non, non. Si.
C'est de la lucidité.
Non, bidon, c'est pas un gros mot.
Alors là, on peut pas.
Bidon, c'est pas un gros mot.
Ah ouais, insulte, c'est pas un gros mot.
Non, c'est pas une insulte.
Okay, très bien.
Excuse-moi. Selon ta théorie tout à l'heure, Bambi, il faut que je le compte alors.
Non, mais. Ah non, Bambi, c'est pas une insulte. J'ai dit qu'il.
Non.
Pas une insulte.
Non, c'est bon. Vous savez quoi? Moi, je m'en fous.
Non, mais.
Moi, je m'en fous. Moi, je prends. Non, moi, je prends tout.
Bidon.
Vous inquiétez pas.
Bidon, c'est limite affectueux.
Moi, je prends tout. Je prends les insultes, les menaces.
C'est pas une insulte.
Je rappelle que la cagnotte nous servira à manger une pizza dans le resto de Verratti à la fin de la semaine.
Le cœur solide. Moi, on m'a vendu une comparaison. Moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup trop flatteuse pour ton ami Montbagnard, c'est d'Archeville.
Hein?
Moi, je crois pas. Je pense que d'Archeville était largement au-dessus.
Moi, je pense que d'Archeville était au-dessus.
Ah,
oui.
Moi, je pense.
C'est ce que je t'ai dit. J'ai dit largement au-dessus.
Ah non, il y a d'autres comparaisons que j'ai entendues cet après-midi dans Rotten sans flamme. Mitroglou ou
Daniel.
Ou Brandao.
Tout à l'heure,
là, on se rapproche. Moi, je trouve que Brandao est supérieur à Montbagnard.
Steve Savidan, qui a dit ça tout à l'heure dans Rotten sans flamme, il a dit. Mumbania, c'est Brandao. Il a dit c'est
Brandao. Je pense que Brandao est supérieur.
Brandao, c'est pas complètement une quiche. Hein, quand
non, en revanche, Mitroglou, on se rapproche.
Oui, voilà, là on est plus dans cette catégorie.
Daniel, tout à l'heure, tu as dit, et on a la.
Toi, si je te traite de Mitroglou, là, je serais d'accord pour dire que c'est une insulte.
On a l'extrait, tout à l'heure, tu as dit, si le PSG gagne avec des champions, je me fais la coupe de Barcola.
Ouais, c'est...
Qu'est-ce que tu fais si. À l'image de la carte de Jean-Pierre Papin, Moumbagnard gagne le Ballon d'Or.
On était tranquille là.
Là, je pense que là, on est tranquille.
Non, à combien de buts, à partir de combien de buts, on va dire, voilà, il faut un truc. Parce qu'il en est déjà, mine de rien, à, je pense, à 4 buts avec l'OM.
On peut être confondu. Complète, 3 ou 4.
4, je pense. 4 et peut-être une passe D en plus.
Non, mais en tout cas, quand je l'ai vu cette semaine, parce que pour le coup, c'est vrai qu'il a, il a un petit peu été joué le rôle du sauveur de l'OM deux fois, ça me fait penser à cette fameuse phrase qui dit que même une horloge cassée, deux fois par jour, elle donne l'heure juste.
Ouais, pas mal. Ah, il suffit que si c'est le bon moment, si c'est à la 70e avec un retour d'acrobatique.
Donc, en fait, c'est l'histoire
de Ramon Faris.
C'est l'histoire du mec premier à un concours de circonstances.
Exactement. Enfin, bon, on rappelle quand même tes amis camerounais, on ne sait jamais. Hein.
Alors, écoutez, quand même ce, écoutez quand même ce document qui pourrait nous faire la fin de saison.
Alors, si on gagne la Ligue des Champions, je me fais cette coupe, tiens, si tu veux.
Voilà. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h21, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là. Juste, je me permets de. Il y a eu un grand cru de Rotten sans flamme aujourd'hui.
Ah oui, il y a eu quoi d'autre de dit à ce sujet d'ailleurs.
Ah non, mais je reprends parce que tout ça est sur rmcsport.fr, donc vous podcastez Rotten sans flamme parce que vous écouterez Christophe Dugarry sur Luis Enrique, je ne vous dis rien. Et vous écouterez aussi Luis Anessib qui parle de la technique de Mbumbanya, elle en parle.
Alors je vais te dire, Luis Anessib, c'est une vraie découverte.
Ah,
je la trouve
bien.
Très bien, vraiment. Je la trouve très bien.
Effectivement.
J'ai envie qu'elle fasse l'after avec nous en soir.
Une révélation de Rotten sans flamme.
Absolument, bravo.
Bravo à l'équipe de Rotten sans flamme.
Ouais. Dénicheuse de talent.
Mmh. Exactement. Excellente aussi, excellente relance de Steve Savidan. Qu'on a un peu perdu de vue. Revenu dans Rotten sans flamme, lui aussi.
Pour lequel j'ai milité pour l'équipe de France, quand même. J'ai réussi.
C'est vrai, ça a été.
Il l'a placé avec
Mais je l'ai placé, mais.
Il a dit quoi du gars, sinon?
Luis Enrique. Franchement, allez écouter. Je ne veux pas relancer le débat parce que.
On ne relance pas. Non.
Mais. Bon, voilà, il a un avis très tranché sur Luis Enrique qui, on va dire, va au-delà du tien. Sur ce, jingle, Florent Gautreau.
Monsieur Sarkozy, vous pouvez nous dire un petit mot. La voiture s'éloigne, il va essayer de remonter sur ma moto.
Ma jeunesse.
Jingle de légende, qui date un peu maintenant. Oui, donc tu voulais parler de ça et en bien, malgré la déroute lyonnaise d'hier soir.
Oui, parce qu'on l'a dit hier avec Walid, et la tactique employée par Sage était assez suicidaire, et je pense que Sage a quelque part fait un peu l'analyse qu'on vient de faire un peu en évaluant l'état de forme des équipes. Il s'est dit, suite à l'euphorie de la qualif et à la fatigue aussi de tout ce qui s'est passé en Coupe d'Europe, on a peut-être moyen d'aller les chercher. Et donc, je mets mon 4-2-3-1, j'y vais, j'assume, je vais jouer contre le Paris Saint-Germain. Et j'ai envie de te dire que il s'est jeté dans la gueule du loup et que ce PSG-là, même en transition, effectivement, et surtout parfois en transition, fait tellement de mal que bah, ça n'a pas été très compliqué pour le PSG, et qu'en 6 minutes, en plus, le plan de jeu était mis à plat. Mais que c'est pas grave. Je vais te dire que pour le championnat, pour la Ligue 1, il faut des entraîneurs comme ça. Pierre Sage a réussi à regagner la confiance de son groupe, à installer quelque chose à Lyon. Il a voulu aller faire ça au Parc, tant mieux. De toute façon, même s'il a changé après, évidemment, et ça a un peu stoppé l'hémorragie, même s'il avait fait autrement, est-ce que, et c'est le vieux débat, est-ce que pour autant Lyon se serait imposé au Parc, aurait fait un résultat? Pas sûr. Donc, quitte à croire en quelque chose, en gros, autant mourir avec ses idées, surtout sur les matchs au Parc. Je pense que les équipes en France ont un peu perdu cette idée, pour certaines, hein, mais pas toutes, d'aller, on va dire, provoquer quelque chose quand tu joues contre le Paris Saint-Germain. Ceux qui l'ont fait cette année, c'est notamment Brest avec Eric Roy, qui a créé quelque chose, qui a décidé d'aller jouer quelque chose même contre le PSG. Et là, bon, ben voilà, Pierre Sage, il a été puni, il est tombé dans une configuration particulière où en gros, ce 4-2-3-1 a explosé et le PSG a été très très fort, et sans doute aussi dans l'euphorie de la victoire contre Barcelone. Mais globalement, et par rapport à tout ce qu'il y avait, pour revenir aussi à des sujets qui nous intéressent, à savoir la communication, bah voilà, Pierre Sage, il a décidé aussi de jouer match après match et de se dire qu'il était finalement peut-être l'homme d'une situation, mais pas forcément de l'avenir. Maintenant, il assume cela. Je pense que là, il y a un petit péché d'orgueil, c'est-à-dire que très en confiance et en pensant que le PSG n'allait pas y arriver, il s'est dit, je vais y aller avec mon 4-2-3-1. Et je pense que ça, dans notre championnat et pour l'OL, même pour, je veux dire, l'histoire du championnat, ce que représente Lyon, c'est bien que Lyon soit présenté avec ces envies-là, c'est bien que Lyon ait voulu faire ça, même si ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'on est quand même dans l'idée d'un coach qui n'est pas là juste en épicier pour essayer de durer et pour se dire, tiens, je vais garder mon contrat, qui se dit, j'ai inculqué quelque chose à mes joueurs, j'ai mis en place des systèmes, je vais essayer de les mettre en place même au Parc des Princes. Donc, le sagisme, puisque je voulais parler de ça, c'est aussi ça, je pense. C'est-à-dire que c'est une façon à la fois d'arriver à gagner la confiance de tes joueurs, quitte à en mettre certains sur le banc, puisqu'on parlait de ce turnover dans la gestion, par exemple, de Cherki, ou même dans la gestion au milieu de terrain et de Cacré, par exemple. Eh ben, c'est quelqu'un qui bonifie ses joueurs sur un plan individuel, qui a effectivement plusieurs plans de jeu, mais un plan de jeu préférentiel. Et ce 4-2-3-1, qui est quand même qui peut fonctionner, sauf contre le PSG, il aura intérêt à le remettre dans les matchs qui viennent. Donc, je trouve que ce qui se passe à Lyon, à la fois dans l'expression collective sur le terrain, dans la façon de gérer Pierre Sage, c'est bien. Et un dernier point sur Sage et sur le sagisme, c'est lié un peu à son nom. Je trouve que par rapport à tous ces coachs, tu l'as dit d'ailleurs Gilbert, notamment pour Brest, mais c'est pas le seul, tous ces coachs qui parlent énormément de l'arbitrage, Sage, lui, en parle très très peu. Il fait partie de ses coachs, comme Farioli, je crois d'ailleurs, enfin, je crois pas me tromper, qui parle très très peu de tout ce qui est un peu extérieur à leur équipe, qui reste parfaitement froid sur le bord du terrain. Et je pense aussi que par rapport aux joueurs, c'est très important. Donc voilà, je voulais juste parler de ça parce que je suis assez content de voir qu'un coach arrive en assez peu de temps, disons, à remettre ce club à l'endroit et à donner une forme de fierté. Maintenant, il reste à voir un truc, c'est que la claque prise hier est une claque psychologique importante avant la finale de la Coupe de France. C'est le seul bémol que je mettrais dans cette stratégie qui, pour moi, en championnat, était une stratégie à tenter, pas de problème, mais qui va sans doute, à un moment ou à un autre, avoir des conséquences pour la finale de la Coupe de France.
Daniel, tu adhères au sagisme ?
Ah, le sagisme, il ne faut jamais oublier que c'est un petit peu le platisme.
Plat du pied, sécurité. Attends, le platisme, à ne pas comprendre avec les platistes.
Non, oui. Et dans la très bonne interview d'ailleurs que Pierre Sage a accordée à l'équipe, il faut quand même savoir que le journal, évidemment, ne pouvait pas en aucun cas faire comme si on existe, puisque nous n'existons pas à leurs yeux depuis maintenant 18 ans. Mmh. Ils ont retiré les deux références que Pierre Sage faisait à Thibaut. Évidemment. Puisqu'il avait...
Oh, c'est vrai ça? C'est pas cool.
Si je te le dis. Tu penses qu'il peut plutôt crever que de parler de nous. Il serait dans un caniveau, la bouche ouverte, les mecs, jamais il parlerait de nous. Bon, donc évidemment, Thibaut Leplat est passé à l'AS, alors qu'il y avait deux références à son travail, puisque tout le monde sait que Pierre Sage et Thibaut sont proches. Bref.
Est-ce que Thibaut est à l'origine du 4-2-3 au Parc? Peut-être pas.
Je crois pas que c'est de tactique dont ils parlent ensemble, mais plus de sujets. Alors, il y a quand même un truc. Alors, j'ai milité pendant des années. Je me suis battu pour et contre tous ces entraîneurs un peu basiques qui tapaient dans les mains, qui machin ceci cela. J'ai vendu, survendu le fait qu'il fallait intellectualiser le football. Et je trouve que ces derniers temps, on est tombé. Moi, ce qui me déplaît, c'est quand on passe d'un extrême à l'autre. Et je trouve que en ce moment, Le pouvoir des coachs, je pense que c'est un sujet qu'il va falloir qu'on aborde un soir, mais le pouvoir des coachs et qu'on veut donner aux coachs qui sont devenus les nouveaux rois dans les clubs et s'ils se rangent eux-mêmes ou sont rangés par les observateurs dans la catégorie intello, mais ils peuvent tout faire et tout leur est permis. Donc Pierre Sage, qui en plus, vraiment, ça tombe sur son interview est très intéressante, même s'il y a plein de trucs avec lesquels je suis pas d'accord, mais ce gars-là est devenu totalement intouchable. Parce qu'il parle bien, parce qu'il fait figure d'intello. Il s'est mis dans cette catégorie, exactement comme le Jiffy, les idées de génie, là, l'entraîneur du PSG, et exactement comme Guardiola, que j'adore et j'idolâtre depuis toujours. On a inventé une catégorie de mecs incritiquables au prétexte que c'était des intellos. Et moi qui me suis battu... Je pense que c'est pour les défendre.
En l'occurrence, je ne crois pas que ce soit le cas de Luis Enrique, vraiment, dans la façon de parler du foot. Si.
Oui, après, si un jour il donne une vraie interview, on s'en rendra compte. Mais il est dans cette catégorie-là, qui en gros sont tous les fils spirituels de Guardiola. Tuchel était là-dedans, opposé à Klopp et tout. Et moi, j'ai toujours adoré tout, mais j'arrive à une forme de saturation d'extrémité inverse que ces mecs-là, on ne peut plus rien dire. L'autre, il a aligné une équipe en bois hier, il s'est fait déchirer dans tous les sens. Mais c'est formidable parce que t'es un mec, t'as vraiment des idées, quoi. T'as des idées, c'est fort, quoi. C'est voilà, on voit que tu penses, quoi. Donc le mec, s'il arrive, moi, dès qu'on arrive vers les extrêmes, ça me fatigue un peu. Alors évidemment, je vais pas me mettre à défendre. Ah, si on avait marqué un but de plus, probablement qu'on aura arraché le match nul ou qu'on aura gagné. Évidemment que non. Mais on peut pas, sous prétexte que le mec fait des belles phrases, explique tout, machin, dire non mais il est formidable, c'est génial, tout le temps.
Non mais parce qu'attends, hier, attends, la petite différence, c'est juste qu'on a dit hier, il s'est trompé. Moi je dis il s'est trompé, mais comme c'est le match au parc, tu tentes un truc. Et je dis juste, ne mets pas à la poubelle ton 4-2-3-1 qui est ambitieux pour le faire. Après, je dis pas, il se trompe pas. Non, il s'est trompé. Il s'est sans doute trompé hier.
Oui, non, mais il y a cette nouvelle tendance des coachs là qui, s'ils viennent avec les grandes phrases comme ça,
prenons l'avis des Lyonnais.
Un petit peu intouchable.
Non, attends, juste là, Jérémy Lopez est là.
Je te signale que dans cette catégorie là, si tu vas, tu glisses vers la médiocrité, mais le mec a un boulard monstrueux, c'est le mec de Bordeaux.
Arriera.
Lui, il est dans cette catégorie là.
Hein. Oui.
Mais comme ça marche pas et tout, on se rend même pas compte de ce qu'il fait. Mais il est en délire total.
Oui.
Tous les matchs, nous on a
joué jusqu'à mettre une gifle.
Nous on a produit du jeu. Si on perd, en gros, c'est jamais de notre faute. On a des phénomènes dans cette catégorie-là parfois, quoi. Donc
un petit point bémol par rapport à ce que tu dis sur le côté de l'intellectualisation. Je trouve que dans l'interview justement de Sage, en dehors de tout ce qu'il raconte de très intelligent, il y a des choses très pragmatiques à l'inverse. Quand il dit en fait le foot que nous on veut mettre en place, c'est pas ce que tu veux, tu vois, qui irait vers l'intellectualisation, c'est ce que tu peux faire. C'est-à-dire que finalement il dit par rapport à l'effectif que tu as, avant on a une volonté. T'as raison, une vision. Mais moi, déjà, j'essaie de faire ce que je peux. Et si après, mes automatismes permettent de faire ce que je veux grâce à ce que j'ai fait avec ce que je peux, ça marche. C'est pas justement quelque chose de très intellectualisé. Mmh. Et justement, ce que moi, j'aime bien chez Luis.
Peter Boss pensait beaucoup. Mais c'est fracassé.
T'as raison. Mais la différence, c'est justement ce que j'aime bien chez Luis Enrique également. C'est que je pense qu'il se dit, contrairement à ce qu'on a dit depuis le début et à l'image qu'il a voulu laisser paraître, j'ai pas une très grosse équipe cette année. Donc, je vais essayer de faire ce que je peux. Par contre, en dehors, je vais leur dire, moi, voilà ce que je veux, jeu de possession 100%. Mais en fait, Luis Enrique, il dit à l'extérieur jeu de possession, mais nous, on voit bien qu'il n'y a pas jeu de possession tout le temps. Il fait ce qu'il peut avec un effectif.
Il ne dit pas ça, parce pas ce qu'il veut. Pourrait te dire que tu n'as rien compris.
Oui, mais ce n'est pas grave. Après, l'important, c'est les faits. C'est finalement ce que tu vois. Et je trouve que Sage a expliqué des choses. Et là, on se rejoint sur ce point qu'en termes de communication, il suffirait parfois juste, comme ça je l'ai fait là dans l'équipe, d'expliquer un peu plus pour que tu te dises, si Luis Enrique disait par exemple, oui, ma volonté ultime c'est du jeu de possession, mais parfois je suis contraint de faire de la transition, écoutez, si ça me fait gagner des matchs, je vais pas cracher sur de la transition, peut-être ça passerait mieux. Moi je dis juste, le résultat il est que possession, coup de pied arrêté ou transition, le PSG est meilleur, c'est aussi grâce au coach, et c'est tant mieux, intellectuel ou pas, ça marche.
Dans un instant, Jérémy Lopez avec nous, on aura également Antoine, supporter lyonnais, ensuite on part en Italie, à tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h34, Laurent Gautreau, Daniel Riolo sont là. Le cas Sage sur la table de l'after. Adhérez-vous au sagisme comme Florent Gautreau. On va demander à Jérémy Lopez qui est avec nous. Jérémy, fidèle de l'after, bien sûr. Acteur émérite.
Et notre conseiller aussi.
Et qui a participé grandement à notre bien-être vendredi dernier, avant notre première représentation sur scène au Trianon. Salut Jérémy.
Salut les amis.
On a été bon.
Et vous avez été formidable. Vous pouvez rentrer à la Comédie Française.
Non, abuse pas non plus.
Ah ouais, ça va vite. Hein.
On le sait quand tu mens.
T'as vu. C'est comme avec les joueurs. T'es étudié en équipe de France, le nouveau Zidane et tout.
Je suis en train de vous faire une Cherki, on appelle ça.
Tu vas nous noircir, ouais.
Bon, est-ce que toi tu adhères comme Florent Gautreau au sagisme?
Alors, je vais d'abord rassembler Daniel et Flo sur ce sujet pour leur dire que je suis d'accord assez avec les deux pour faire attention et prendre le temps pour pas créer un monstre avec Sage comme a pu être créé, pas par vous forcément, mais par d'autres médias, un monstre avec Genesio. Parce que vous savez ce que j'en pensais. Mm. Et Genesio a eu un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il vient du bas. Il est venu à l'OL alors qu'on était vraiment dans une sale posture, mais beaucoup moins grave que celle dans laquelle on était en décembre, avant l'arrivée de Sage. Mais il nous a ramené sur le podium et c'est devenu un grand entraîneur. Et en fait, on n'a pas avancé pendant 4 ans avec ça. Donc, il faut faire attention. Après, je ne suis pas encore sagiste, mais c'est-à-dire que c'est comme si je savais que j'allais quand même finir par l'être. C'est-à-dire que c'est comme si tu vas en boîte de nuit, tu sais que tu vas boire des coups, tu n'étais pas encore ivre, tu n'es pas arrivé à la boîte, mais tu sais que tu vas y aller, tu vas passer une bonne soirée. Donc, je vais tomber dedans. Parce que je suis extrêmement séduit par son discours et par sa façon de parler aux médias et donc aux supporters et aussi sa façon de gérer l'effectif pour l'instant. Il y a un truc que je trouve très intéressant dans ce que j'ai lu là, dans son entretien sur l'équipe avec Hugo Guimet. Là. Il parle de, je crois que tu l'as dit Flo, c'est sur la comparaison avec Boss. En fait, c'est majeur. Là, c'est-à-dire que c'est une promesse. Il va falloir qu'il soit assez fort pour la tenir. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu ce qu'il avait dans le ventre. Là, il est dans une phase d'adaptation et de sauvetage depuis le début. Il est dans une gestion d'effectifs, une gestion des joueurs qui étaient au fond du trou mentalement et dans leur pensée foot, et rien n'allait. Donc là, il est dans une phase où il s'adapte, où il fait avec. Et je pense qu'il fait le deuil de certaines idées qu'il a. Moi, je ne suis pas capable maintenant de te dire quel est le foot.
Ouais, mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je n'arrive pas. Moi, je vois qu'il a redonné du caractère et de la confiance. Mais pour ce qui est du style de jeu, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il préconise, ce qu'il veut faire, ou pour l'instant, je ne vois pas. Tout le monde est, comme tu dis, en sorte d'extase, prêt à entrer dans la boîte de nuit. Bah, ok, très bien, moi aussi, je veux bien y aller, j'ai aucun problème. Moi, quand il parle, c'est un gars, on a envie de parler avec lui, clairement. On a envie d'avoir rien contre lui. Un gars qui est aussi disponible pour parler, qui s'exprime aussi bien, est formidable. Mais il faut juste que, comme je reproche à Luis Enrique de communiquer à l'envers et de rien faire pour qu'on partage des bons moments ensemble, d'un autre côté, on peut pas se laisser tout le temps attraper par le mec qui à travers les interviews complètement formidable. Il faut également voir ce que le gars fait, quoi.
Il pourrait y avoir un effet Lebris. C'est-à-dire que Lebris, il y a eu une sorte d'état de grâce début de saison, là, rappelez-vous.
Bien sûr, bien sûr.
Et puis au final, Lorient joue pour le maintien,
autre
quoi.
Élève.
Donc,
autre élève.
Après,
Lebris. Ouais.
Après, quand même, Sage, c'est assez extraordinaire parce que je l'ai dit ce week-end après avoir lu l'interview. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis très longtemps, pour moi, peut-être, c'est peut-être la première fois que je vois un coach à Lyon qui ne prend pas les supporters pour des imbéciles et qui respecte infiniment les supporters puisqu'il leur parle de foot. Donc il explique son travail, il explique comment il bosse au quotidien et en fait tu as l'impression d'avancer avec lui, avec le groupe. Ça c'est quand même extraordinaire.
Jérémy, est-ce que vraiment, au fond... les supporters sont attachés à ça. Est-ce qu'après tout, tant qu'il les matchs et tu gagnes, c'est pas finalement ce que demandent les gens? Parfois, je me le demande, moi.
Bien sûr, mais pour moi, la base quand même pour créer une relation avec tes subs, c'est d'avoir un coach qui parle foot quand même.
Ouais.
Si c'est ta première image, ta première parole. Sportive, c'est celle de Sage là actuellement au club. Et même si ça travaille très bien et très fort, mais je veux dire c'est Sage qui a la parole. On a besoin de ça, nous, d'avoir des repères. Et tu vois bien que les défaites sont plus acceptées. Alors évidemment, il y a moins de défaites. Il est remonté, mais c'est quand même. Moi, je suis très très optimiste sur ceux qui s'interrogent à savoir si on est en Europe l'année prochaine, s'il faut le garder, s'il faut le prolonger. Moi, pour moi, si t'es un club honnête. La question ne se pose même pas. C'est-à-dire que le mec nous sauve. On est.
Oui, et puis en plus, bon, là, peut-être que Lyon a besoin un peu de stabilité quand même maintenant.
Bien sûr. Et puis, tu vois, les joueurs, quand même, j'ai lu Maitland Niles sur la chaîne du club qui disait on voulait même plus aller aux entraînements, on était angoissés le matin.
Non mais tu sais, Jérémy, il y a un truc quand même capital. Justement, avant de parler tactique, parce que c'est justement là où je dis qu'il n'intellectualise pas tant que ça.
Non, il l'humanise.
Voilà. Et il a commencé par la confiance, par le fait d'embarquer tous les mecs avec lui, par même faire comprendre à certains, faire accepter à certains le turnover. C'est ça avant tout. Et moi, ce que je disais au départ sur Luis Enrique, mais ça vaut pour Eric Roy à Brest, ça vaut pour plein de coachs, c'est plus simple dans un vestiaire plus petit, je parle en termes de budget, d'avoir les joueurs à sa main. Mais globalement, c'est déjà, et à Lyon c'était plus compliqué, d'avoir les gars. Alors forcément, de l'académie, il en avait plein parce qu'il les avait connus, mais pour les autres, les étrangers, ceux qui sont arrivés plus tard, c'est pas forcément simple. Et quand tu dois mettre même un gars que t'as connu à l'académie sur le banc, c'est pas forcément simple. Donc l'idée d'arriver déjà à créer cette structure-là et de commencer par ça, c'est pour ça que je reviens sur ce passage de l'interview où il dit avant tout, faire ce que je peux et après on verra si les idées que j'ai, j'arrive à les mettre en place. C'est pour ça que je trouve pas tant que ça, même s'il s'exprime bien et qu'il dit beaucoup de choses et qu'il est très calme, je trouve pas qu'il intellectualise tant que ça les choses. Je trouve que il arrive, et c'est le plus compliqué, à embarquer tout le monde dans la même histoire, y compris les supporters. Peut-être qu'il y aura mieux après. Moi, je ne sais pas si Sage est un grand entraîneur. Ce que j'ai dit juste par rapport d'ailleurs à hier, c'était oui, c'est trompé. Oui, c'est aussi pour ça que Lyon a perdu. Mais il y avait plein de façons de perdre contre ce PSG-là. Donc, je préfère à la limite perdre comme ça que perdre autrement.
Est-ce qu'il s'est réellement trompé ? Tu joues une équipe qui est largement meilleure que toi, qui a 20 points d'avance, qui est en pleine confiance parce qu'ils viennent de battre le Barça.
Non, il s'est trompé parce qu'il s'est dit.
Il se trompe vraiment, il s'est trouvé parce qu'il y a des individualités au-dessus.
Il s'est troué pour une raison simple que j'ai expliquée tout à l'heure, que je suppute, c'est. D'ailleurs, dans l'interview, ça transparaît pour la première fois. Je suis quand même un peu en confiance parce que là, il parle de l'avenir. Tu sais, dans l'interview, il commence à dire, oui, bah, évidemment, j'ai envie de continuer, ça m'intéresse, c'est quand même bien ce qui se passe. Deuxièmement, il se dit, le PSG va faire tourner parce que Luis Enrique, il le fait souvent et encore plus là puisqu'il a des échéances à venir. Donc, 1 plus 1 égale 2, j'y vais, je mets mon 4-2-3-1 parce qu'il y a sans doute moyen de faire un coup ce soir. Voilà, il s'est un peu trompé parce que il prend dans la gueule l'équipe du PSG et ce qu'il connaît par cœur, ce qu'il a décrit, qui est très forte parce que, comme je disais tout à l'heure, la structure est plus forte que le reste en ce moment au PSG et fait que ça fonctionne même avec, on va dire, les remplaçants. C'est en ce sens qu'il s'est trompé. Mais là où, en tout cas, il a raison, à mon avis, c'est de dire, en termes de fierté, à ses supporters, aux joueurs, on va jouer comme ça. Et puis, à la mi-temps, il dit, OK, bon, les gars, on change, parce que là, sinon, il y a risque de valise, on va pas être ridicule non plus. Donc, il n'y a pas de honte à faire ça, et je dirais même qu'il y avait, pour moi,
de la... Il n'y avait pas vraiment de remplaçant hier, au PSG.
Jérémy, merci d'avoir discuté avec nous ce soir.
On n'est pas dans l'équipe de Clermont.
Allez, le mot de la fin pour Jérémy, quand même.
Juste, évidemment, il a été euphorique un peu hier, mais il est tombé sur plus euphorique, sur une équipe plus euphorique que nous et que lui. Voilà. Mais après, ce qu'il fait avec, et vous le savez, Daniel, tu le sais, ce qu'il fait avec Lopez, d'avoir mis cette concurrence en Coupe de France, d'avoir fait admettre tout le groupe, dont Lopez, même si ça doit être difficile, que c'est peut-être la fin et qu'un changement est en train de s'opérer et que c'est en train de se faire en douceur, c'est quand même miraculeux. Tu vois, c'est un exemple quand même extraordinaire, je trouve. Après, ça donne une idée aussi d'humilité, à savoir si c'est le foot que ça je veux faire sur le moyen ou le long terme, il y a encore du boulot dans l'effectif. Voilà. Mmh.
Salut Jérémy, à bientôt dans l'after. Jérémy Lopez avec nous ce soir. Le drame à Lyon, c'est ce que c'est aujourd'hui. C'est John Textor.
Ah oui.
Accident sur skate.
Tu sais qu'il assure,
facteur du coup.
Tu l'as vu le bonhomme, t'as vu les vidéos?
Ah non, mais il est champion de Sky.
Guy McFly dans le générique de Retour vers le futur.
Et là, il a chuté.
Je crois qu'il y a cette feuille aussi qui t'intéressera tout à l'heure pour le Survivor.
Non, mais il m'a piqué toutes mes feuilles.
Mais je ne savais pas que c'était ton paquet de feuilles.
Incroyable. Antoine, pour conclure sur Lyon, est là. Salut Antoine.
Salut, bonsoir Antoine. À tous.
Tu fais pas de skateboard, toi, Antoine?
Non, c'est pas de skate, mais j'ai vu la vidéo, j'étais impressionné.
Il est comme Pierre Sage, les vidéos l'ont un peu enflammé. C'est un peu enjaillé derrière, apparemment il s'est pété le coude.
Bon, tu nous écoutes depuis tout à l'heure sagement. Là.
Ouais, ça fait une demi-heure que je vous entends. Ouais, franchement, bah, ça fait longtemps que j'ai pas été d'accord avec tous les intervenants là, qui sont intervenus les uns après les autres. Premièrement, avec Flo, parce que j'ai le même avis, on est plutôt satisfait du boulot de Pierre Sage, et moi, pour hier, je l'en veux pas vraiment. parce que même sans, on va pas réinventer l'histoire, ça fait un petit moment qu'on le réclame ce 4-2-3-1. À l'inverse, sur les derniers matchs, en fait, on se rendait compte qu'on commençait toujours en 4-3-3, qu'il se passait rien pendant 70 minutes. On passait en 4-2-3-1 avec Cherki qui rentrait, puis c'est là qu'on retournait les matchs. Donc, on commençait à se dire, ce serait bien de le voir sur un 11 de départ. Bon, ils le tentent contre Paris. En soi, ils font tourner. Moi, avant de voir la compo, quand je vois la compo parisienne sortir, je vais pas mentir, je suis un peu content. Bon, bah, au bout de 6 minutes, je déchante, on plie bagage, et de toute façon.
Mais qu'est-ce qui te rendait content, quand tu vois la compo du PSG hier?
Mbappé, Dembélé sur le banc.
T'as un milieu de terrain, Vitinha, Asensio, Zaïre Emery. D'ailleurs, Asensio, qui est toujours le joueur mystérieux dont on ne sait jamais à l'avance les performances, dans la compo d'hier, il a été, je l'ai trouvé très bien. Et là, pour le coup, avec Vitinha derrière lui, là, ça devient intéressant.
Non, mais après, ce que je veux dire, c'est que nous, on prend 5 buts par saison de Mbappé. Donc, évidemment, quand il n'est pas sur la pelouse,
ah, on ne pourra plus. Non, c'est terminé, ça, c'était avant. Maintenant, tu sais bien que la Vox Populi pense que c'est une pipe, donc il ne met plus de buts.
On va pas faire un débat sur Mbappé, mais non, mais voilà, ça pour dire que je n'en veux pas forcément pour hier. J'aime aussi son discours, le fait qu'il parle. Pourtant, après, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, Daniel. J'ai pas envie qu'on tombe non plus dans la caricature, surtout lorsque ça s'installera, je pense, l'année prochaine, lorsqu'il continuera, parce que je pense que c'est ce qui se passera. Pour le moment, ce qu'on voit de lui, moi, vraiment, ce que je vois de lui, en tout cas, c'est ses qualités managériales. En effet, il a su emmener un groupe, il a su redresser un groupe qui était à la tête sous l'eau, du gardien jusqu'au remplaçant et toutes les recrues qu'il y a eu même en janvier. Après, oui, tactiquement, en soi, on voit pas encore grand chose. On voit que des discours. Mais la petite différence, c'est que ce que tu décrivais tout à l'heure, alors évidemment, on va pas le comparer à Guardiola ou quoi que ce soit, mais il admet quand même lorsqu'il fait des erreurs, il admet quand son équipe joue mal. C'est plutôt ce qu'on dit de lui, en fait, qui en fait un théoricien. Ouais, alors, ouais. Parfois, il a des discours plutôt très pragmatiques, en réalité.
Ouais, c'est vrai.
Et le paramètre le parallèle de Jérémy tout à l'heure est assez correct. Faudrait pas qu'on tombe dans ce qu'il y avait pour Genesio à une époque, ou alors pas sur votre antenne, enfin en tout cas pas dans l'after, mais sur d'autres émissions de votre chaîne ou sur les concurrents comme l'équipe, etc., où on pouvait pas du tout toucher à ce que disait Genesio parce qu'on en avait fait le mec sympa, et lorsqu'il nous sortait des énormités, on ne pouvait plus rien dire. Et d'ailleurs, ça me fait un peu écho à ce que tu disais tout à l'heure, Daniel. Tu demandais à Jérémy si les supporters, ils s'en foutaient pas un peu qu'on nous parle de foot. Trompe-toi, je pense qu'à Lyon, au-delà de la façade qu'on voit du club, des balcons, etc., on a un public qui aime justement qu'on nous parle football, et c'est ce qui nous a gonflé en fait à un moment sur la fin de Genesio. Donc
non, mais c'est pas. T'as bien compris pourquoi je disais ça, parce que il y a parfois. Oui, moi j'adore quand les entraîneurs le font, mais parfois on s'accommode quand les entraîneurs ne le font pas et on nous dit que c'est pas grave du tout, que c'est pas grave, que chacun fait comme il veut et communique comme il veut, c'est tout. Moi j'aimerais bien. Moi je trouve que c'est formidable. J'aime beaucoup ça. J'aime quand les entraîneurs viennent, expliquent ce qu'ils font et font partager leur expérience sans mépriser personne, puisqu'il paraît que c'est moi qui méprise les gens.
Bon, en tout cas, ça, je l'ai fait dans l'équipe. Je vous invite à lire l'interview si vous ne l'avez pas lu. Antoine, un truc à rajouter ?
Non, juste voilà, après pareil, on va pas s'enflammer sur la fin de saison parce que on se projette déjà limite comme potentiel vainqueur d'une Coupe de France. Moi, sincèrement, c'est encore un
cas. Vu le match d'hier, il y a du boulot quand même.
Vu le match d'hier, Paris sera peut-être en train de préparer une finale avec des champions et on la prépare pas.
Dis-toi juste une chose, hein, si le PSG le veut, PSG l'aura.
Ah oui. Exactement. C'est du 90-10 et les grands clubs normalement en ayant de grandes chances, ils vont pas faire tourner. Au contraire, ce serait une répétition générale peut-être pour une finale avec des champions.
Exactement.
Donc, j'y vois pas beau. Mais voilà.
Salut Antoine, merci beaucoup.
Salut.
Et bonne soirée. Gilbert, tout à l'heure, on a eu le directeur sportif officieux de l'OL. Mm-hmm. Sache que le DS caché de Bordeaux est au plus mal.
Ah ouais.
Là, je viens de recevoir une affiche pour un prochain mouvement de grève qui se prépare à Bordeaux.
Avec les ultramarines ont lâché, là. T'as vu?
Stade vide pendant 15 minutes. Mmh. Non, mais encore, j'ai appris, tu sais, je te souviens de l'histoire du PQ.
Ouais.
J'avais raconté le service d'entretien. Mmh. Là, maintenant, c'est les pelouses. Tous ceux qui s'occupent des pelouses et tout, ils sont pas payés depuis des mois, ils veulent plus venir. Terminé. Il y a plus d'arrosage de pelouses. Donc, le club pro joue sur des pelouses qui ne sont plus arrosées, à part s'il pleut. Les terrains plus entretenus. Plus tondu,
ah, ça, c'est
plus
parce
rien.
Que c'est une mairie écolo, ils veulent pas de gaspiller l'eau.
Plus rien. Donc, non, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a plus, les fournisseurs ne sont plus payés. Ah, donc le PQ, ils ont récupéré, là, ça y est, il est revenu, le gars qui fournissait. Mais là, pour l'entretien des pelouses et tout, c'est terrible. C'est terrible. Et ça, c'est, on fait pas assez attention à ce qui se passe à Bordeaux. Là, en plus, là,
demain,
coup,
on va en parler demain. On a le temps demain.
Pour le coup, c'est Sud-Ouest, ils sont bien sur l'affaire. On peut peut-être les faire venir. Mais le coup de l'arrosage et tout, c'est eux qui l'ont sorti aujourd'hui. et ils confirmeront pour les histoires de PQ et tout ça, là, si tu veux.
Bon,
ben, il aura envie de venir. Mais bah, le club,
on va les inviter,
limite en cessation de paiement.
On pourra peut-être se pencher sur la qualité du papier toilette. Est-ce que c'est du Just in One?
Mais voilà. Donc, Gérard Lopez, c'était quand? C'était il y a 2 ans? Parfois, il faut 2 ans pour que les gens ouvrent les yeux.
Dans un instant, on part en Italie, messieurs, dames. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h53, Florent Gautreau, Daniel Riolo, Yohan Crochet nous rejoint, l'Inter Milan est champion d'Italie. Alors, on a une surprise, mais enfin, sans doute qu'ils ont apprécié d'obtenir ce titre face à leur grand rival, Milanais. Yohan, bonsoir.
Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Bon, oui, forcément, bah, c'est oui, le champion c'est... dans le derby.
Ouais, c'est...
Bon, ça a été chaud, hein.
Ah oui, oui, bah, c'est, bah, un derby, en fait, c'est... C'est toujours pareil, un derby déjà c'est chaud, un derby pour le titre c'est quasiment du jamais vu, et ensuite bah te faire je vais pas dire un peu, enfin si c'est une humiliation en fait pour les tifosi du Milan de d'offrir le titre quand tu reçois lors du derby, et donc bah forcément ça s'est chauffé un peu en fin de match, les mecs qu'on attendait qui étaient susceptibles de craquer ont craqué comme Théo Hernandez, et donc il y a pas eu de grande surprise de ce côté-là, mais c'est vrai que c'est un peu la cerise sur le gâteau de gagner ce Scudetto le soir du derby. Une saison qui a été gérée vraiment de A à Z de manière formidable. Il n'y a qu'une défaite en championnat cette saison du côté de l'Inter. Il y a une surdomination, comme il y avait eu d'ailleurs une surdomination du Napoli la saison dernière, avec deux parcours, style, type de jeu, entraîneur, expérience, joueur très différents finalement. Mais malgré tout, une nette domination, ce qui fait que bah on n'a pas eu un très très grand suspense depuis quelques semaines en Italie pour le titre de champion.
Être champion un lundi soir, est-ce que c'est pas un peu gâché le truc, tu vois, un lundi soir?
Oui, oh, je pense que
ça va être la folie à Milan ce soir.
Il y a pas de gâchis dans la fête. Ils sont déjà des dizaines de milliers sur le Duomo, sur la place du Duomo à Milan à célébrer, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est la programmation de la Ligue italienne. Bon, ça reste la Ligue italienne. Hein,
avec un chouchou de Florent Gautreau, quand même, je le précise. C'est Thuram.
Et de Polo aussi. Non, je plaisante. Ouais, bah Marcus Thuram qui marque, évidemment, qui fait une très belle saison. Hein. Il est à 12 buts et 7 passes décisives. Oui,
et comment tu la juges, la saison vraiment bonne? Parce que 12 buts, est-ce que c'est en Italie? Comment on considère ça?
Bah, en fait, c'est pas juste 12 buts. C'est 12 buts et 7 passes décisives. Donc c'est un joueur qui... Ce qui me plaît, c'est l'entente avec Lautaro. Et ce qui me plaît, c'est qu'en fait, les deux sont capables d'un peu tout faire. C'est-à-dire décrocher, participer au jeu, aller sur l'extérieur et prendre les espaces, jouer sur la profondeur. Marcus Thuram a fait beaucoup de progrès dans la liaison avec les autres joueurs, dans le jeu de haut but, dans l'entente avec un attaquant à ses côtés. Donc il y a beaucoup de choses positives, évidemment, que tu pourras aussi pointer du doigt quelques ratés assez incroyables et quelques prestations un peu en dessous de ce qu'il a pu montrer sur d'autres rencontres. Mais pour une première saison dans un club qu'il découvre, dans un championnat qu'il découvre, à un niveau supérieur, évidemment éminemment supérieur à Gladbach, c'est quand même
juste très court, mais parce qu'évidemment moi j'aime beaucoup et je pense qu'il a effectivement aussi des lacunes. Maintenant il faut être exigeant avec lui parce qu'il a encore vraiment des progrès sur des points précis, mais ça valide le choix du club, le fait de vouloir jouer à deux, le fait que ça lui donne une opportunité.
Au PSG, je le rappelle.
Ouais.
À Milan,
c'est intéressant sur ça. Moi, je trouve que sur la façon, et c'était une réflexion avec son père Lilian, de choisir ce club pour des raisons tactique et évidemment après de voir les progrès qu'il peut faire dans d'autres domaines, je pense qu'une saison réussie à ce titre, peut-être pas dans les stats, même si t'as raison de souligner qu'elle est passe-dé, mais je trouve, enfin moi à mon sens, c'est quand même s'imposer comme ça dans cette équipe-là championne, c'est fort.
Johan, merci beaucoup.
Merci à vous, monsieur.
On se retrouve très vite.
Et juste pour petite précision, comme j'aime bien les stats, 6 derbys perdus d'affilée par l'AC Milan, ça n'est jamais arrivé dans le derby de Milan. Et sur les derniers derbies, on est sur un 19-5 en termes de buts, hein, pour l'Inter.
Donc, ah oui, quand même. Sur ça fait une branlée. Merci, Johan.
Ciao, ciao.
Deux petites infos pour finir, vous dire, c'est une info italienne d'ailleurs, que la clause de Guendouzi n'a pas encore été activée par la Lazio, mais ça devrait pas tarder. En fait, Guendouzi deviendra officiellement joueur de la Lazio. Pour l'instant, il est prêté par Marseille. Si la Lazio finit dans les 10 premiers de Serie A, ce qui est plutôt bien parti, ils sont actuellement 7e. Ou bien, si la Lazio gagne la coupe, c'est moins bien parti, mais enfin, bon, ils sont toujours en lice en demi-finale. Et puis la mésaventure aujourd'hui de Yazici, le Lillois, qui a été victime d'une effraction à son domicile. Et le joueur était à l'intérieur, il a entendu des coups de marteau à la porte d'entrée, il a appelé la police qui est arrivée vite. C'est la troisième fois qu'il est victime comme ça de tentative de homejacking, Yazici. Et à Lille, attention, hein, c'est rappelez-vous à l'époque de Balmont qui avait été séquestré dans le coffre d'une voiture. Enfin, il y a un vrai problème à Lille.
Beaucoup de clubs, pas que à Lille, c'est arrivé très souvent. Donnarumma au PSG, à Paris, et d'autres.
Et à Marseille.
Bien sûr.
Voilà. Survivor, tout de suite.
L'afterfoot sur RMC avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Il y avait 16 membres de l'after au départ de ce premier tour du 5e Survivor. Tous ceux qui ont joué Lens et qui ont battu Clermont sont qualifiés. Le Plat, Vexio, Jamin, Tour, Loussaïev, Villas, Diaz, Courbis, Riolo pour une fois. Un seul avait joué Nice qui recevait Lorient, qualifié, c'est moi. Les autres sont out. Messieurs Jean Grande, Braun, Dorian qui avait joué Toulouse. D'autres avaient joué Le Havre, au revoir. D'autres avaient joué Reims comme Jérôme Thomas. Au revoir également. Survivor continue la semaine prochaine. On ramassera les copies. Et puis d'ici demain soir, allez faire un tour sur l'after.media parce qu'il y a une offre exceptionnelle là, de printemps, un code promo si vous voulez vous abonner à la revue, on vous offre moins 20%.
Oh là là.
Ça marche pour les abonnements annuels, vous entrez le code RMC24 dans la petite barre de code promo là et vous aurez 20% de
et vous cadeau. Faites partie des privilégiés parce que quand on est abonné à la revue,
on est un afterien
et un privilégié.
Exactement.
Forcément.
À demain soir dans l'after 22h, on aura Sébastien Bassong avec nous demain soir, je pense qu'on parlera de foot anglais et donc de Bordeaux. À demain.
RMC, l'after foot.